Voilà, bon, donc je donne tout de suite la parole à Isabelle Estrin-Contensou, qui, elle s'est présentée le premier soir, je rappelle, est enseignante, d'une part, et d'autre part, est en train de travailler sur une thèse sur les avant-gardes sur Internet. Je ne sais pas si c'est le titre exact.
Bon, ça a un peu changé, en
mais
fait.
Mais bon, ça va être
précisé. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, sans l'informaticien, je vais essayer de vous présenter mon travail pour pas que ça dure trop longtemps. Dans le PowerPoint, il y a juste quelques images pour la distraction du public, mais je ne montre pas vraiment de site, éventuellement un passage très rapide sur le web. De toute façon, bon, je ne suis pas branchée, donc on risque rien. Ça a marché. Ah, ça s'est tout éteint. C'était pas prévu que ça fasse ça. C'est bon ? Voilà, pas du tout. Je tourne tout seul. Voilà. Donc, les avant-gardes littéraires sur Internet, tentative d'épuisement des approches de la création littéraire en ligne. Lecteur hybride d'imprimé et d'écran, contemporain d'une troisième révolution du livre, nous découvrons sur Internet des auteurs et des œuvres. La numérisation du texte, sa diffusion sur des réseaux, induisent des modifications des pratiques de lecture et d'écriture. Pouvons-nous les percevoir alors que le livre modèle encore nos habitudes de pensée ? Créant à partir des conditions matérielles et des situations de communication liées à la numérisation et à l'Internet, expérimentant les possibilités du média, dans une époque avide d'innovation, les artistes du cyber art ont résolument choisi d'expérimenter les potentialités du réseau en termes de création, de diffusion et d'organisation. Pour interroger le rapport plus spécifique de la littérature à ces technologies et à leur contexte, poser la question d'une écriture internet de la littérature, nous privilégions l'étude de ce qui se donne comme avant-garde. Donc vous avez sur l'écran une des pages d'entrée dans le voyage immobile. Vous avez l'adresse www.voyage-immobile.net. Fiction réalisée sur plusieurs années. C'est un voyage fictif sur le Transsibérien. Une narratrice feint d'envoyer quelqu'un voyager sur le Transsibérien. Et à chacune des étapes de cette route, on tire profit des ressources d'Internet pour nous présenter un spectacle, un magasin, une habitude culturelle d'un pays qui en réalité n'a jamais été visité. Donc, vous savez, c'est une tradition chez les écrivains du voyage de rester dans leur chambre d'hôtel pour écrire à partir d'un guide. Donc cette tradition est revivifiée par la pratique d'un artiste qui s'appelle Kat Blue, donc une jeune femme. En parcourant cette fiction, donc vous sortez de son site pour aller vers d'autres sites. Elle a fait rentrer dans le jeu des internautes involontaires, puisque par exemple elle s'adresse à une agence de voyage tout à fait réelle, et d'autres internautes ont bien voulu jouer le jeu. Alors ce qui m'étonne beaucoup, je le dis tout de suite, c'est que cette fiction, qui me paraît un exemple simple de réalisation littéraire sur Internet, qui est référencée par Le Monde comme les 10 meilleurs sites l'année, je ne sais plus laquelle, n'est pas connue de la majorité des gens présents ici. Je ne veux pas par là souligner leur ignorance, mais juste montrer l'immense problème qu'il y a de la visibilité des œuvres d'art sur Internet. Alors je vais me demander si la création littéraire est une littérupture, terme par lequel Henri Béard évoque une rupture qui n'est pas contre une tendance, mais procède, je cite, d'un moment de désordre absolu. Rupture avec les canons de la littérature, rupture avec l'idée même de littérature. Mais savons-nous définir celle-ci en dehors du livre ? Devons-nous considérer que le texte est fixé sur la page ou qu'il l'a toujours excédé ? Ne parlons-nous pas d'écriture depuis la fin des belles lettres ? Ainsi, en s'interrogeant sur la textualité numérique, on doit à la fois comprendre ce qui la distingue de l'imprimé et ce qui en assure la littérarité. Alors, je citerai le débat est toujours ouvert. Comme le résume Serge Bouchardon sur la liste de discussion du collectif de créateurs et de critiques e-criture.org, entre une compréhension qui opposerait écriture, l'écriture électronique à littérature, ou une volonté que l'écriture englobe la littérature dont elle serait l'avenir, ou encore une différenciation de l'écriture comme forme qui s'éloigne de l'écrit et de la littérature. Enfin, la reconnaissance d'interaction entre le web art et la littérature. Donc, dans une première partie, je vais présenter la constitution de rupture, montrer l'importance de la question technique dans la création et la réception de l'œuvre sur Internet. Ensuite, je me placerai du côté de la réception des œuvres en montrant plusieurs voies d'organisation d'un contexte en cours d'élaboration. Alors, vous avez à l'écran une citation de Jean-Pierre Balpe qui fermement affirme que la rupture que nous connaissons est aussi importante que celle que nous avons connue pour le surréalisme. Donc, premier point, dans notre champ conceptuel, la faillite des avant-gardes littéraires, c'est-à-dire la faillite des utopies révolutionnaires, renvoie l'usage de ce terme à une époque esthétiquement révolue. Cela n'empêche pas la mention récurrente par des acteurs de l'Internet littéraire que l'avant-garde trouverait avec l'ordinateur et sur les réseaux un nouveau territoire. François Nudelman se demande ainsi si des réactions non réactionnaires à la modernité technique, aux manipulations des images numériques ou à la circulation des textes anonymes sur le web peuvent ouvrir la voie à de nouvelles avant-gardes. Ainsi que le montre Méchonic, le triangle modernité-postmodernité-avant-garde est fort mal fixé. Je distinguerai pour ma part deux acceptions. La première concerne des mouvements ou des auteurs issus des avant-gardes historiques. Plusieurs poètes font ainsi le lien entre les avant-gardes historiques et l'avant-garde qui interroge l'inscription du texte dans son support numérique. Alors, on ne peut pas voir là l'écran malheureusement. En fait, sur cette page se mêlent des gens qui viennent des avant-gardes des années 50-60 et des gens qui ont aujourd'hui 25 ans. Plusieurs poètes font le lien entre les avant-gardes au sens historique. On lira par exemple sur la présentation de l'article Jacques Donguy sur la superpoésie, cyberpoésie, plus qu'une révolution, une apothéose. La synthèse des avant-gardes les plus tumultueuses du siècle, le collage chez Schwitters, le cut-up de William Burroughs et du ready-made de Duchamp à la première conception de poèmes assistés par ordinateur au début des années 60. De la même manière, Philippe Castelin propose une anthologie des poètes contemporains pour la revue italienne Boletario, dans laquelle avant-garde se rapporte au futurisme aussi bien qu'à la poésie sur le net. Vous pouvez même voir des querelles de chapelle. Donc à droite, un auteur qui est donc sur la revue Boletario, donc c'est l'avant-garde française. À droite, c'est le jeune Cyril Bray, poète performeur. À gauche, le non moins jeune Julien Dabrigeon, qui nous explique qu'il ne veut surtout pas être taxé de poète performeur. Donc la traduction des querelles françaises est toujours bien vivace. On verra par exemple la présentation par Francis Misiot du lancement d'une expérience d'écriture en ligne révolutionnaire sur la Factory, en référence à Andy Warhol. Je cite « J'ose croire que la Factory participe d'une certaine idée de la modernité, voire de l'avant-garde. » Une seconde acception définit structurellement l'avant-garde par le refus de la reproduction des héritages, la mise en cause des fondements de la société, la subversion des catégories, le risque de l'illisible, le renoncement à une audience rémunératrice et le choix de l'accumulation d'un capital symbolique. On voit bien l'aporie qui consiste à vouloir saisir ce qui s'énonce dans la rupture avec tout discours critique ou institutionnel et qui parfois même refuse toute visibilité. Donc la notion est bien utilisée aujourd'hui comme opérateur de distinction dans le champ de la création. Philippe Boots, fondateur de la revue À lire, en fait usage pour rappeler un choix esthétique inaugural et ôter toute légitimité à différents courants nés avec la démocratisation d'Internet. Je cite « On a vu apparaître une nouvelle génération d'auteurs très intéressants qui utilisent Flash ou la vidéo pour animer la poésie, mais ils s'éloignent de l'inspiration avant-gardiste. Pour eux, l'ordinateur est juste un support, il ne fait pas partie de leur processus de création, explique-t-il. » Inversement, le Lièvre de Mars, créateur du site du Terrier, se défend de prendre l'avant-garde pour objet. Alors, je vais vous donner un extrait tout à fait significatif, un petit peu long. Donc, il évoque le récit de la fondation de la revue La Parole Vaine. Nous avions pu adopter sans peine l'idée que notre travail inscrivait la revue dans un panorama d'avant-garde. D'une certaine manière, l'importance que nous accordons à la recherche stylistique et intellectuelle, la pleine contemporanéité de nos options culturelles, picturales et musicales autant que littéraires, et le plus souvent l'objet même de nos études, le panorama de nos fictions, ne nous y arrimait-il pas ? Puis le monde des revues s'ouvrant en quelque sorte à nous, nous en avons reçu beaucoup d'autres, simples feuillets photocopiés ou revues luxueuses au casting de prestige pour lesquels cette notion, cette catégorie d'avant-garde était un mot d'ordre manifeste. Nous avons dû reconsidérer notre position en regard de cette certitude. Non seulement les textes qui nous passaient entre les mains étaient à mille lieues de nos préoccupations, mais surtout, contrairement à ces revues, l'avant-garde n'était jamais notre objet. Donc, ce qui nous importe donc, c'est d'évaluer si nous sommes en face d'un progrès esthétique ou s'il faut résolument abandonner cette conception de l'art et voir dans l'ordinateur et le réseau des technologies qui amènent la littérature sur des territoires en friche et peut-être jusqu'à son éclatement comme champ. Edmond Couchot interroge les spécificités de l'art numérique du point de vue de l'image et rend compte d'un changement radical. Nous ne sommes plus, dit-il, en présence de ces oppositions binaires entre tradition et modernité, ou encore entre académisme et subversion. À vrai dire, c'est bien dans chaque domaine artistique que la numérisation et la mise en réseau bouleversent les conditions de l'expérience esthétique. Donc, en résumé, repris dans la cyberculture, le terme d'avant-garde apparaît, dans d'autres sphères culturelles aussi employées comme synonyme d'expérimental ou de révolutionnaire, de contre-culture, et en même temps, il peut être soigneusement évité pour mieux dire la rupture. Je vais maintenant évoquer des manifestes, manifestes pour une littérature numérique. Donc, je vais en passer quelques-uns en revue. Donc, pour défendre et définir la littérature, des auteurs publient sur Internet des manifestes. Ces discours en ligne s'adressent à ceux qui ignorent l'Internet littéraire et sans doute manquent-ils quelque peu leur destinataire. Pour affirmer l'importance de ces nouveaux territoires et au sein du cyberespace, pour affirmer des positions esthétiques. On définit par là des déclarations écrites, discours adressés par une personnalité ou un collectif à une audience plus ou moins restreinte qui expose un programme, de nouvelles manières de voir, des principes, selon une tension polémique ou didactique, dans des formes variées du texte manifeste, de l'éditorial de revue, voire de la lettre au lecteur que je ne détaillerai pas. Donc, je vais d'abord distinguer la pratique de la défense d'une certaine idée de la littérature, puis montrer l'insistance à promouvoir de nouvelles conceptions du droit d'auteur, et enfin le choix de radicaliser le rôle du support informatique dans la création littéraire. Je vais d'abord voir Internet comme médiation. Alors, on en a déjà parlé, mais dénoncer les abus de la littérature traditionnelle, les réseaux qui président à la distinction des œuvres, le peu de critique véritable, le goût à tout prix de l'institution pour les grands écrivains, c'était déjà l'affaire de Julien Gracq dans la littérature à l'estomac. Ça a été repris lors de la querelle Jourde qui a eu beaucoup de succès sur les réseaux. Donc s'auto-publier, éditer sur l'Internet, c'est trouver une nouvelle voie pour réajuster la valeur des œuvres. À l'occasion du débat sur le prêt payant en bibliothèque, le jeune auteur Christophe Spielberger réagit contre ce qu'il appelle le roman d'élevage conforme à la couleur maison et redéfinit l'imagination comme base de la littérature contemporaine contre à la fois l'autobiographie, le réalisme, l'érudition et le copier-coller. C'est le choix de Michel Valenzi, créateur des éditions de L'Éclat et du concept de Liber, œuvre dans sa double présentation papier et numérique. Parmi d'autres, Pierre-François Gagnon au Canada défend sur Editel une littérature équitable qui verra de petits éditeurs indépendants proposer aux lecteurs des livres de papier électronique. Donc l'Internet est ainsi dans un rôle de contre-pouvoir de médias alternatifs. Christine Genin, webmestre du site de référence Labyrinthe, choisit ainsi de proposer une page intitulée « Création en ligne », je cite, « qui rattrape l'injustice faite aux écrivains, pas encore publiés par des éditeurs traditionnels, en proposant des liens vers des pages personnelles où ils s'auto-éditent ou sont publiés par des revues et ou des éditeurs en ligne. » Zazie Web, le site pionnier d'Isabelle Aveline, est fondée par les contributions des lecteurs et se préserve d'influences éditoriales pour promouvoir la petite édition. Pierrick Le Pilouer a créé avec Citeaudis le premier site de poésie comparative. Je vous invite à découvrir ses rubriques parution et excitation pour y voir des distinctions franches entre les œuvres. Même critique du comportement des structures éditoriales aujourd'hui intégrées au marché et d'une littérature qui concurrence les médias et se conforme aux attentes de ce marché par le collectif de poètes emmené par Jérôme Bertin et dénonçant dans le manifeste négatif l'hégémonie du spectacle du signifiant et du sens au détriment du dire. La subversion de la langue se veut ici déconstruction de l'ordre idéologique du monde. Grâce à la BDHL, j'ai trouvé la référence d'un manifeste de Jules Janin au XIXe siècle qui, dans son manifeste, dit exactement l'inverse, c'est-à-dire il réclame le droit pour la littérature de s'adresser à tous comme le journal que la population attend pour le matin. Je vais maintenant évoquer la question des droits d'auteur. Donc, victime d'un pillage de son journal, Annie Stroem fait éclater son indignation. Internet n'est pas le lieu du non-droit. Mais plusieurs manifestes prônent la création d'œuvres artistiques sous copyleft. Dans cette veine, le texte manifeste de la licence établit les principes du droit de reproduction, de diffusion et de modification de l'œuvre. En effet, à l'auteur originel se joignent les contributeurs postérieurs. Cette licence empêche l'appropriation abusive tout en préservant le mouvement de la création reprise par d'autres. Ainsi, l'écriture collaborative est-elle encouragée ? Je vous invite à voir l'œuvre d'Antoine Moreau, Utopie du plagiat, hypertextualité et production culturelle électronique, qui prend la forme du coup de dé de Mallarmé, renverse la valeur du plagiat en un acte de salutaire recombinatoire par réaction à la profusion des discours et des codes. Selon ce courant, l'hypertexte de la culture post-livresque serait avant tout un nouveau mode de recombinaison de textes déjà produits. Il ne s'agit pas pour autant de se parer des plumes d'autrui sans signaler l'emprunt ni la couture. La question des droits d'auteur. Pardon, il me manque une diapo. La question des droits d'auteur à l'époque de la numérisation reste un terrain de bataille entre les défenseurs du copyright et les défenseurs d'un droit d'auteur qui non seulement assure la circulation des œuvres, mais autorise leur reprise et modification. Lucide Boutigny, auteur de la fiction hypertextuelle non-roman, c'est-à-dire une des plus célèbres, pose dans l'œuvre collective que vous voyez ici, WC Field, avec les membres de la liste écriture, la question d'un droit d'auteur qu'il est urgent de réformer et l'interrogation sur les possibilités de rémunération des auteurs. Alors j'ai honte d'avoir fait cette copie d'écran. L'œuvre en réalité fait à peu près 5 fois cette taille. Vous pouvez observer à gauche pour vous, il est fait mention d'un échange de courrier entre Lucide Boutigny et donc Xavier Malbreil. Donc la question n'est toujours pas résolue et ce qu'on voit ici c'est une œuvre collective. Alors, je vais passer. Ouais. Je vais passer un petit peu sur un point. Donc, en finir avec le livre, c'était déjà l'ambition du manifeste de l'association Mélusine, sans relation avec le surréalisme, du Pierre Delacoste, qui prônait de couper le fil reliant le texte au livre et d'utiliser pleinement les possibilités de l'hypertexte. Donc en 1996, il vantait les possibilités de relier vers une page précise d'un site. Il distinguait deux usages de l'ordinateur, l'un rationnel et l'autre qu'ils appelaient médiéval, synthétique. Ici, l'hypertexte devait prendre en charge la complexité de la pensée, nouvelle version du mythe prométhéen de la technologie toute puissante. Presque à la même époque, la revue Kafkaïen se démarquait des excès de l'interactivité dans un manifeste refusant les effets faciles de l'animation sans contenu ni poésie. La volonté de se démarquer du livre est constamment réaffirmée, en même temps qu'un ancrage fort dans la littérature convoqués sous la forme de bibliothèques, de livres que l'on commande, de pratiques d'écriture, replacent l'écriture en ligne inexorablement dans la tradition du littéraire. Exemplairement, François Bon, dans « Tumulte, littérature archaïque », explore un nouveau mode de mise en relation des pages dans un essai d'écriture au quotidien, directement sur le serveur, décide en juin 2005 de lancer un travail d'écriture, je cite, « qui ne se révélerait au jour qu'en fonction du site, un site qui ne porterait même pas de jeu d'auteur, un site qui serait le seul auteur de ce qui y germe, s'accumule, s'étend. » Ce pionnier de l'Internet littéraire s'impatiente de voir Internet encore beaucoup trop considéré comme une caisse de résonance, comme une médiation ou information, et non pas, je cite, « outil de création en lui-même, du moins dans l'univers de littérature ». Alors, ce que vous voyez à l'écran, c'est donc une page de ce site. En haut, à droite, s'affichent automatiquement les articles qui sont liés thématiquement avec l'article qui est sur la page. Et donc, sous cette photo, il y a un récit de rêve de François Bon. Et à quoi rêve François Bon la nuit? À des pages. Donc, bien que par prétérition, il se défende de signer un texte manifeste qui ferait effet d'école, Yann Batens et Bernardo Schiavetta, qui étaient donc ici l'année dernière, affirment le rôle du calcul comme moteur de l'écriture dans l'éditorial du premier numéro de la revue Formule. Ils développent la notion d'hyperconstruction contre une certaine faiblesse de la production et la croyance à l'expression romantique. Il s'agit de favoriser une démarche qui tienne compte des acquis du postmodernisme et d'une nécessaire discipline formelle. Ils marquent leur attachement à ce que la règle, les mécanismes de l'ordre générateur du texte soient lisibles. Donc on pourra montrer ultérieurement leur site qui s'appelle le projet Raphaël. Donc, dans le domaine de la littérature générée, il n'est plus question de sortie imprimante et la lecture se fait sur écran. Mais la lecture d'un texte que le lecteur découvre comme le lecteur, qui n'est ni reproductible ni réductible à celle de ses virtualités qui s'actualisent. Deux crans supplémentaires sont franchis lorsque les auteurs réclament d'une part que l'on tienne compte de la temporalité du processus et d'autre part que l'on distingue ce qui se lit à l'écran et le programme. Alors par exemple, tout à l'heure, si on avait pu cliquer sur le lien que vous voyez là, on aurait vu s'afficher l'heure qu'il est en ce moment, puisque l'auteur a choisi de créer une animation sur une heure universelle. Dans son manifeste, Antoine Schmitt refuse que l'ordinateur soit utilisé comme un simple terminal ou même un instrument de montage évolué. Il renvoie les œuvres sonores et visuelles du côté de la publicité et du divertissement et revendique, sans faire assaut de technique, de prendre en compte le rapport particulier au temps du fonctionnement du programme. Un même souci d'opérer un déplacement du regard depuis les formes sémiotiques à l'écran vers le programme, ou plus exactement à l'ensemble des dispositifs, conduit les membres du transitoire observable à signer un manifeste fondateur qui s'attache à la production de formes créées mais non fixées par l'auteur de l'algorithme, observable à l'état transitoire du processus d'exécution. Les auteurs de ce mouvement se heurtent à un échec de communication assumé, le lecteur n'ayant pas accès à la compréhension du dispositif par lequel un paratexte est nécessaire. Ces e-poètes réclament une nouvelle forme d'illisibilité. Donc, je vais étudier un petit peu ce point, hermétisme ou accessibilité à travers les technologies de la littérature en ligne. Donc, d'un côté, le goût de l'expérimentation, le goût de la concurrence également, conduit les créateurs à exploiter les nouveaux logiciels de manière singulière. De l'autre, le lecteur n'a pas réellement les moyens d'interpréter une œuvre dont les dispositifs et les intentionnalités lui échappent. Philippe Castelin s'en amuse avec les mains du diable que vous avez à l'écran. En fait, c'est une animation shockwave, donc simplement le texte s'écrit au fur et à mesure, hein, qui paraît quelque chose de tout à fait étonnant, hein, et qui nous apprend donc que les mains du diable écrivent sans qu'elles ne se voient. Le renouvellement constant des outils propres à l'Internet, à son mouvement, est contraint à toutes sortes de réadaptations. Bernard Stiegler rappelle cet empire de la technique. Je cite, « Nous vivons aujourd'hui un processus de transformation très puissant qui empêche une stabilisation et ne nous laisse plus le temps de nous habituer à un état d'équilibre stable. Empire qui nous force à revisiter les relations du texte et de son support. » Donc voici l'apparition inquiétante de l'hypertexte, c'est aussi le titre de l'œuvre. Donc la fiction apparition de Anne-Cécile Brandon-Bourget est un hypertexte édité en plusieurs épisodes sur le site danacolut.com, puis disponible ensuite sur le site de l'éditeur numérique zerreur.com. La lecture de cet hyper-roman, un roman policier dont l'énigme est la recherche de l'assassin de Dr Marbella, est d'abord une expérience de désorientation. La narration classique est remise en question par une navigation qui ne correspond plus au feuilletage du livre. Donc, vous voyez qu'ici, on a un passage court avec un suspense narratif. En fait, on ne sait pas où est la suite. Elle est certainement, il n'y a pas de page suivante. On peut aller à la page, on peut chercher une autre page par une destination aléatoire. On peut revenir à un carrefour précédent. On peut revenir à l'étape précédente. On peut revenir au début de l'hypertexte où on peut cliquer sur un des liens proposés par la page dans la plus grande incertitude de savoir si nous aurons ou non une suite à ce passage. Donc, on trouve encore un incipit, un sommaire, mais le lecteur doit à chaque écran sélectionner un lien et s'il arrive à l'extrémité du chemin, se servir de l'atlas des possibles et de la destination aléatoire pour découvrir le récit. La page à l'écran éclate en plusieurs fragments accessibles depuis plusieurs liens, ici il n'y en a qu'un, et ouvert sur des parcours possibles que le lecteur actualise. Dans cet entre-là, le même fragment est lu différemment selon les liens qui y mènent. Ce qui met à mal l'illusion de la fiction et augmente encore l'incertitude sur l'ampleur de l'hypertexte. Le lecteur circule entre des possibles déterminés par une instance qui a aussi réglé l'enchevêtrement des voies narratives, tel épisode dévoilé par le personnage de son choix selon une fiction immuable. Cet hypertexte a ses limites, le lecteur peut suivre les épisodes attachés à un personnage tandis qu'il ne peut, par exemple, sur un même lieu, faire varier les points de vue. Après avoir rappelé combien le lecteur d'hypertexte est désorienté de ses habitudes lectorales, qu'il aborde l'hypertexte comme un jeu plus qu'une lecture sérieuse, Bertrand Gervais pose la question de l'évaluation. L'hypertexte fictionnel est donc pour l'heure un produit culturel qui ne dépend d'aucune institution hyper-littéraire, en fonction de laquelle l'évaluer. Tout reste à faire. Alors, il me semble que dans l'apparition inquiétante, la figure découragée du détective, c'est un topos du genre policier, dessine un reflet travesti du lecteur, dont bien sûr le plaisir est de mener l'investigation et l'interaction dans cette enquête à travers le scriptive. Anne-Cécile Brandon-Bourget installe un univers carnavalesque, le récit emprunte à l'univers du roman policier, des feuilletons télévisuels qu'il parodie, se pare à la fois des registres du sublime et du grotesque, comme il mêle les types sociaux des personnages. Les liens hypertextuels et multimédia provoquent des coqs à l'âne, cocasses ou déceptifs. Nous y voyons à la fois le désamorçage de clichés et la marque d'un genre en devenir. Alors, j'avais prévu un passe. On a jusqu'à 16h, 17h. Alors, j'avais prévu un passage sur l'accessibilité des weblogs que je laisse, sinon on n'aura pas le temps. D'accord. Alors, je continue à montrer, je voudrais montrer en quoi la technologie weblog est intéressante pour moi, c'est parce qu'elle est facilitatrice. Je parle ensuite très rapidement du wiki. Donc, rendre accessible à tous la création de pages sans code, c'est le vœu des promoteurs des outils weblog, carnet de bord en ligne, organisés par date, outils personnels d'écriture et de liens. L'ampleur du phénomène s'apparente à un mouvement d'appropriation collective de l'innovation qui s'appuierait sur une offre technologique fiable, de logiciels et de plateformes, offre gratuite en partie, mouvement encouragé par les discours d'accompagnement de la part des médias grand public est principalement animé par une forte émulation interne à la blogosphère. Des méta-weblogs sont ainsi le lieu d'études et de mise au point avec la participation de blogueurs avertis. Les weblogs établissent des espaces communautaires, virtuels d'abord par le jeu des commentaires et des weblogs cités, puis bien réels lors de rencontres de carnetiers, plus contributeurs, qui voudront bien révéler quel visage a pris tel pseudonyme. En proposant des techniques de facilitation, font-ils de chacun un auteur d'avant-garde ? Si les weblogs connaissent un tel succès, on pourrait l'attribuer également au fait qu'ils normalisent un certain nombre de procédés de la navigation hypertextuelle et interactive. Donc, l'internaute découvre par ordre antéchronologique des notes au centre de l'écran, déroulées au fur et à mesure de la lecture linéaire ou hypertextuelle, qu'il peut commenter en ligne, à moins qu'il n'use dans les bandeaux de l'organisation hypertextuelle interne et externe du weblog. En effet, le lecteur disposera souvent d'un agenda, d'une liste de rubriques, voire d'un moteur intégré. Il peut accéder à des liens externes depuis le cœur des notes ou de la liste des liens vers les blogs sélectionnés. D'autres éléments de facilitation entrent en jeu. Pour l'auteur d'une note, comme pour le lecteur, qui doit s'inscrire au préalable ou non, la règle du passage de la lecture à l'écriture est celui d'une grande liberté formelle. À partir d'une structure de site et d'un environnement d'interaction et de liens, chacun peut tenter une écriture en ligne. Être lu, mêler son écriture à celle des autres. L'internaute fait écho, selon le registre et les modalités de son choix, aux notes qu'il commente. Alors, on connaît l'inventivité lexicale et typographique de l'écrit numérique lorsque les internautes cherchent à établir le dialogue ou à signaler leur texte par une typographie extravagante. Je vous invite à voir sur les blogs d'adolescents les stratégies pour être le blog qui sera lu. Donc, il me semble que pour l'auteur comme pour le lecteur, le blog est bien ce carnet de voyage sur l'Internet qui correspond à nos nouveaux modes de circulation. Donc, vous avez vu Philippe de Jonquière, dès 2002, sur son weblog, il appréciait la simplification des outils de l'autoportrait et dénonçait déjà qu'on annonce comme un nouvel outil de l'expression ou d'écriture en ligne, ce qui n'était pour lui qu'un infime moyen supplémentaire de notre communication écrite contemporaine. Donc, l'appartenance au genre du journal intime, à la différence qu'ici le destinataire, loin d'être nié, interagit, celui du journal, du carnet de voyage, dont les croquis seraient des photos, est discuté et guide les pratiques littéraires. Une relative standardisation des formes d'expression de la subjectivité et la mise à disposition d'outils de conception de liens hypertextuels facilitent la figuration de soi. Alors, je voudrais faire un parallèle avec la littérature imprimée, les difficultés de stabiliser les genres de l'autobiographie, de l'autofiction et du roman du jeu en citant Philippe Forest, mais j'avance. Il y a d'autres usages littéraires du weblog, par exemple Florence Trocmé tient avec Poésie Bao un journal permanent de la poésie et avec son flottoir un weblog de lectrice et d'écriture de la mémoire. Je voudrais présenter en quelques mots les possibilités ouvertes par la technologie Wiki. Alors, ce que vous voyez là, c'est le Wiki ouvert par Antoine Moreau, qui est plutôt en art plastique, promoteur de la licence Copyleft, qui a ouvert un Wiki qui marche assez bien. Donc, sur ce Wiki, on trouve une histoire écrite par plusieurs internautes. Il me semble que c'est là quelque chose qui est à observer. Donc, comment ça se passe ? On peut créer ou modifier des pages en ligne. Le webmestre peut attribuer des droits distincts selon les pages et selon les internautes. Ainsi, on peut laisser à chacun la possibilité d'intervenir, voire de reprendre un brouillon disponible en ligne. Pierre Ménard, que vous connaissez sans doute, crée Marel à partir d'un wiki, support d'atelier d'écriture, ce qu'il appelle une zone d'activité qui permet à chacun de participer. Chaque visiteur peut se transformer d'un simple clic en visiteur actif, en utilisant les possibilités d'écriture collaborative. L'œuvre en construction, résolument textuelle ou multimédia, prendra toutes sortes de formes. Et vous verrez aussi sur Marel la contribution d'auteurs confirmés, y compris d'auteurs papier, comme de très jeunes auteurs. Donc j'ai montré qu'il y avait un phénomène littéraire en constitution sur Internet. Je voudrais maintenant voir quels sont les moyens par lesquels ce nouvel espace s'organise. Donc je m'intéresse à la question de la diffusion de la navigation. Donc je passe rapidement sur la question de la navigation. On peut opposer les webmasters qui préfèrent préserver le caractère disparate de l'Internet, l'aspect labyrinthique, et ceux qui voudraient à tout prix imposer au lecteur des chemins trop rigides. C'est une querelle qui oppose Christine Genin, par exemple, et Umberto Eco, qui est disponible sur le site de la BPI. Alors, ça a été discuté au moment du colloque sur le texte électronique. J'en viens à mes propres recherches et la difficulté de trouver des descripteurs pour trouver les sites de création littéraire. Donc vous avez là la liste, qui n'est pas exhaustive, des termes par lesquels on accède à des sites de littérature. Donc ce patient travail m'a permis de comparer au passage les différents moteurs et je me permets de vous recommander le métamoteur Copernic pour ses usages. Donc la question qu'on se pose est aussi celle des limites de la littérarité des textes en ligne. Par exemple, hypertexte, texte généré, poésie cinétique et visuelle appartiennent en même temps au champ du net art et à celui de la littérature. Donc les néologismes en cours d'élaboration sont stabilisés par des institutions comme la Bibliothèque nationale, le ministère de la Culture, des sites d'université, des colloques, des manifestations d'une part, par des instances de régulation interne au web comme le dictionnaire international des termes littéraires en ligne ou par des listes de discussion. L'usage qu'en font les auteurs de descriptions de sites et de travaux critiques d'autre part. Bon, Xavier Malvray a déjà montré l'usage des métadonnées pour désigner les œuvres. Alors, je me suis intéressée aux bases de données. Donc, base de données et typologie. Alors, juste un petit zoom sur une toute petite partie de l'œuvre d'Annie Abrahams. Vous avez là deux extraits de son travail. Vous voyez tout en bas, format ici, qu'elle a choisi pour l'instant de présenter une sorte de zapping à l'intérieur de son œuvre pour lui donner une plus grande visibilité. Sur la page que vous avez à droite, nous avons de l'hypertexte en français, en anglais, du son, de la vidéo. Sur la page de gauche, nous avons un travail collaboratif avec une série de mots qui va peut-être nous réserver des surprises comme être des mots générés ou des mots qui s'effacent. Donc vous voyez un petit peu la difficulté d'établir des typologies. Alors nous disposons de quelques-unes. La première est basée sur les genres traditionnels en histoire littéraire. Elle distingue prose et poésie. Donc vous connaissez la BDHL et vous connaissez la complexité de l'opération puisqu'il faut trois niveaux de genre, à quoi s'ajoute le genre désigné par l'auteur pour parvenir à l'exhaustivité. Donc Jean Clément qui saluait en 1994 l'apparition de l'hypertexte comme un nouveau genre auquel il attribuait déjà une dizaine d'années, distingue ensuite l'hypertexte de fiction, l'œuvre interactive, l'œuvre générative, la poésie animée. Distinction que lui reproche Lovs Glazier, qui est un poète américain universitaire, qui se réclame pour sa part de la poésie hypertextuelle. Mais convient-il de séparer les deux paradigmes de l'interactivité et l'hypertexte, ou de l'hypertexte et de la littérature générée? Donc cette typologie ne paraît pas véritablement opératoire. Alors Annick Bureau en a proposé une autre qui est basée sur les interfaces. Elle distingue les artistes qui ignorent les interfaces, ceux qui les prennent comme constituantes de l'œuvre, les rendent transparentes, et ceux qui les prennent pour le contenu même de la création. Ceci me paraît définir les esthétiques. Alors c'est la base de données qu'elle a créée avec un soutien institutionnel extrêmement important, puisque c'est OLAS, et dans une déshérence assez navrante. Alors le site du cybermensuel Arché au Canada, très intéressant, semble engager une typologie qui est basée sur l'interactivité, distinguant interactivité faible ou forte et degré d'implication. Il paraît judicieuse, mais pour l'instant, il n'y a que quelques œuvres répertoriées. Alors, on pensait avoir trouvé l'outil de rêve avec la base de données américaine, qui est managée par Robert Kendall, qui propose de distinguer à la fois les genres, vous voyez poésie, fiction, drame, non-fiction, enfin théâtre et essai par exemple, la taille des œuvres, court, long ou recueil d'un côté. Ensuite, d'indiquer si Il s'agissait d'un hypertexte, si on avait la collaboration, enfin quel type de collaboration ou d'interactivité était attendue du lecteur, est-ce que le texte était animé, et ainsi de suite. Donc cette base de données présente l'intérêt d'offrir un panorama de la création littéraire internationale. On ne peut malheureusement pas interroger à la fois les spécificités de genre et la langue. Il faut, si on demande les œuvres en langue française, on ne peut plus discriminer. Mais le problème principal est ici, c'est que cette base, qui est pourtant tout à fait soutenue, connaît des difficultés à garder les données. Alors, je n'ai pas eu le temps d'étudier précisément la distorsion, mais il me semble qu'elle ne présentait qu'un seul type d'auteur, et donc je ne sais pas si le fait que autant de liens soient cassés, hein, c'est-à-dire la majorité des œuvres n'amènent à que des pages introuvables en ce qui concerne la littérature française, je ne sais pas si c'est simplement une difficulté de mise à jour, un problème technique, ou s'il y a là une manœuvre de gens qui ne souhaitent pas être mis à côté de certains commissaires d'exposition. Alors, voilà, bref, on observe une confusion importante. Il est bien certain que la rencontre de l'œuvre avec l'œuvre numérique s'effectue en dehors d'un catalogage facile, à rebours sans doute des procédés usuels des industries de la culture. Il s'agit d'une pragmatique en cours d'élaboration. Donc pour mes recherches, j'ai mis en place une base de données avec un informaticien qui tient compte des caractéristiques techniques de l'œuvre et qui sera accessible en ligne. Alors, je voudrais parler un petit peu des revues, donc je vais abréger. Les revues, organiser l'espace pour gérer ces littératures de rupture, c'est un rôle que peuvent tenir les revues. Donc, les formes de l'information littéraire ont évolué sur Internet, revues en ligne, webzine, revues électroniques, magazines indépendants, revues de création littéraire, qui tire parti de la publication électronique, associée ou non à l'imprimé, à l'édition des œuvres sur disquette ou sur CD-ROM. Donc j'ai déjà cité Remunet ou Citaudi. Je voudrais vous parler de La Femelle du Requin, dirigée par Laurent Roux, qui privilégie des expérimentations sur des thèmes, des écritures ou des écrivains, dans la perspective d'une édition papier annoncée comme voie de la consécration. La revue Formule, dont on a déjà parlé, se positionne sur la voie d'une modernité qui privilégie le calcul. On peut donc en voir un exemple avec l'œuvre Raphaël qui n'est pas du tout destinée à la publication. Avec Tapin, toute la poésie admissible sur le net, Julien Dabrigeon du collectif Boxon veut donc sortir la poésie du livre et propose des poésies visuelles et sonores. Enfin, Inventaire Invention de Patrick Cahuzac est un pôle multimédia de création littéraire organisé selon trois axes: la revue littéraire sur Internet, la publication de livres, l'organisation de lectures et de débats publics. Donc vous avez ici en arrière-plan le site de la revue Inventaire Invention et en premier plan le catalogue d'un ouvrage qu'on peut acheter en librairie ou lire sur le site, hein, de Jacques Roubaud, Tokyo Infraordinaire. Il y a des soutiens très importants, institutionnels d'une part, éditoriaux de l'autre, pour ce site. Je reviens sur la revue des ressources. Bernard Vautier est présent au colloque Schwab. C'est donc un des rédacteurs, c'est le rédacteur avec Robin Hunzinger de cette revue. C'est un magazine librement, gratuitement et entièrement consultable sur le web, qui propose certes une actualité de la vie littéraire, mais surtout des dossiers, donc un dossier Marcel Schwab, des chantiers d'écriture en cours et des œuvres. Donc ici à l'écran, vous avez un auteur qui tient un chantier d'écriture. Hein, donc il y a quelques chroniques, c'est pas tous les jours, hein, où elle présente le travail qu'elle est en train de réaliser. Donc je ne vais pas insister sur ces revues. Je voudrais juste rappeler que la plupart des revues, en fait, hésitent entre, d'une part, la publication imprimée ou non, pour des raisons souvent stratégiques et ou esthétiques, hésitent aussi entre une forme d'actualité ou au contraire la constitution de bases de données pour répondre au manque de visibilité des œuvres sur l'Internet. Hein, donc tout à l'heure, j'avais montré la revue Docs, pardon, elle était là, vous trouvez sur Docs un nombre très important d'œuvres référencées. C'est une adresse un peu compliquée. De la même manière, sur la liste écriture, a fait un site qui référence la plupart des créations littéraires multimédia. Alors, en conclusion, je crois qu'on voit bien que sur l'Internet, artistes, critiques et théoriciens ne sont plus des catégories si distinctes. En témoigne le nombre de collaborateurs, les forums, la possibilité de réagir aux articles ou de participer à une liste de discussion, les interactions sur les weblogs. Le brouillage des genres concerne aussi les revues dans leur rapport variable à l'imprimé. La présence indispensable d'auteurs et de critiques attachés à mettre en ligne des ressources pour faire connaître et valoriser la création littéraire est une des manières d'assurer la visibilité des œuvres. Donc par sa nature, la création littéraire en ligne est fragile. Elle prend le risque de l'illisible, de l'invisible, la disparition dans l'espace et le flux des réseaux. Nous avons montré quelques-unes à peine des directions prises par les auteurs dans ce qui s'apparente à un bouleversement et demande d'adapter nos automatismes perceptifs pour pouvoir interpréter et évaluer les œuvres et en devenir enfin les contemporains. Alors, comme on ne sait pas toujours comment à son tour devenir un auteur, je voulais vous proposer ceci. Donc, c'est Charles Panquin qui nous propose la police Rimbaud, qui permet quand même très rapidement à chacun d'entre nous de devenir un auteur génial. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Bon, merci beaucoup Isabelle pour ce travail de repérage utile à tous. Pour sa présentation très claire, mais également pour cet effort de concision. Alors, comment
sommes-nous ? Eh bien, il y a les chevaux qui attendent.
Les chevaux m'attendent. Bon, alors, ce que je vous propose, donc, c'est d'aller nous installer confortablement dans les fauteuils du grenier pour discuter tranquillement et sans être attendu par personne de cet exposé, mais également, je pense, on pourra continuer à discuter de l'exposé de Julien Rau et de Gambert de Lille que nous avons entendu tout à l'heure. Donc, des études et un objet de connaissances.
Tu nous fais un cours ?
Pour ouvrir ce que tu dis, Michel, je suis mort. Moi, j'ai décidé de faire la lecture d'une œuvre.
On est déjà samedi matin. Non,
c'est un qui est le non-roman du Zibouti. Et comme tu posais une question en même temps à Julien, ça va faire la transition. C'est que, en ligne, depuis 2002, donc ceux qui sont en information et communication, en Infocom, on a ArchivSIC qui est une archive ouverte en ligne depuis 2002. Là, j'ai déjà vu tout à l'heure, il y a déjà 159 auteurs qui ont publié au moins un article. Et donc, moi, j'avais déposé un article, c'était en janvier 2003, qui s'appelle Hypertexte et art de l'ellipse d'après l'étude du non-roman Lucide Boutigny. Et on a accès à les statistiques. Par exemple, là, je vois qu'il y a eu 5735 téléchargements de l'article en question depuis donc fin janvier 2003, alors que je l'avais publié par ailleurs dans une revue dite blanche, selon la classification Romeo, à savoir les cahiers du numérique. J'ai peut-être vendu 200 des cahiers du numérique. Là, il y a quand même eu 6000 téléchargements de l'article en 2 ans et demi, avec une moyenne donc de 220 téléchargements par mois. Donc ça existe déjà pour nous. Bien sûr, ton projet va beaucoup plus loin et un petit peu différent. Mais enfin, nous, déjà, on dispose de ça, l'information et la communication, de cette archive ouverte en ligne. Voilà.
Oui. Je voulais juste réagir. Tu as dit 200 numéros d'archives sur les vendus, mais c'est pas combien de lecteurs.
Oui, c'est vrai. Quand c'est en bibliothèque. Qui voulait Alpar ?
Moi ? Bon, il y a quelques questions d'abord. Bon. J'avais dit une vingtaine de questions. Alors, la première. On a remonté ici les rapports. Alors, c'était le Queneau, les 100 000 milliards de poèmes. C'était un cybertexte avant l'Internet. Est-ce que tu as trouvé des choses, des créations numériques sur Internet qui essayent aussi d'établir un dialogue, alors une relation avec des formes anciennes, par exemple l'Italie de la Vierge, ou alors les labyrinthes, des choses comme ça, c'est-à-dire des formes qui ont été proposées il y a 2-3 siècles, qui peuvent être remises en ligne et d'une manière différente, en même temps qu'on trouve des relations assez claires.
Alors ces perles-là, on les cherche en effet.
Donc par exemple, le Philippe de Jonker explicitement rattache son roman hypertextuel le chinois aux nouvelles de Cortazar, la marée de Cortazar. Mais c'est vrai que j'ai pas cherché l'Italie de la Vierge particulièrement. Mais en fait, on a affaire aussi à une certaine inculture, pour bien le dire, hein, des jeunes créateurs qui parfois n'ont pas du tout lu ces œuvres, hein, ni celles du courant postmoderniste, des années 50, 60, 70, ne sont pas forcément des références pour les auteurs.
Je pense aussi au Santon, je pense.
Oui, c'est ça, tu as parlé de Raphaël, hein, de Schiavetta, c'est quand même un Santon multilingue, c'est quand même bien
tout
la tradition du Santon.
Ouais, hein. Mais voilà, c'est un exemple.
Ah non, il y a beaucoup.
Au Maroc, au Brésil, au Portugal, on en trouve beaucoup. Hein.
Et par exemple,
des sonnets écrits en 7-8 langues.
On trouve aussi, par exemple, quelqu'un qui fait un générateur de textes, mais qui sont déjà des choses. Il y en a un, quoi, qui propose, c'est Reyes, c'est ça, qui propose un site avec une.
C'est la nouvelle Portugal, il propose aussi en ligne un générateur en ligne, sa texte.
J'ai déjà quelque chose qui peut te passer après, des indications.
Volontiers.
Et deuxième question, je sais pas, bon, je cède la place, hein, ça va. Et est-ce que tu as pensé à une sorte de classification? D'un côté, on a des créations qui font appel à un tas de mouvements, d'interactions, de programmations, des stratégies d'interaction. Le lecteur et l'écran. Il y en a d'autres qui font appel à ce qu'on peut appeler une sorte de minimalisme, c'est-à-dire on choisit 1, 2, 3 possibilités d'interaction et on essaye d'en tirer les conséquences.
Là, il me semble, en effet, il y a tout à fait un point d'esthétique qui sépare des concepteurs qui vont choisir d'explorer 1 ou 2 pistes d'interaction et qui vont mettre un peu de tout dans leur... Tout à fait. Et par exemple, les typologies proposées ne pourront jamais tenir compte de ça. Enfin, une fois qu'on a qualifié l'œuvre d'interactive, on ne va pas pouvoir indiquer si c'est toutes les secondes ou si on doit pouvoir faire... On ne peut pas indiquer le degré de complexité. C'est pour ça que j'avais montré Annie Abrams. On ne peut pas indiquer le degré de complexité.
Non, parfois une seule interaction, c'est très complexe. Ouais. Ça dépend de ce qu'on a devant nous. Tu as pensé à ça.
Oui, je pense quand même qu'en matière d'interaction, il y a quand même deux stratégies très nettes. Parce que hier soir, on a eu la démonstration par Xavier Malbraille du Livre des Morts. Donc, il montrait comment son texte et ses illustrations, voire animations, fonctionnaient d'un côté. Puis, après, est-ce que vous voulez répondre, etc. Oui, non. Et c'est un espace séparé. Et je lui posais la question de savoir s'il avait envisagé d'intégrer les réponses. Des internautes, enfin des commentaires des internautes, dans certaines fenêtres visibles en même temps que son texte. Il a dit carrément non, il y a mon espace, il y a ceux des internautes, mais c'est pas fait pour interagir. Moi je trouve ça un peu dommage, puisque l'internet permet précisément les œuvres collaboratives, et je pense qu'il y a des gens très nettement qui n'ont pas envie, qui veulent bien laisser un espace aux internautes, mais ça ne se mélange pas avec leur œuvre.
C'est intéressant comme distinction, parce qu'il y a effectivement des auteurs qui vont intégrer. Annie Abrams intègre l'écriture des internautes à la sienne, d'autres pas du tout. Il y en a qui jouent aussi à ce que l'internaute dégénère le texte produit, l'efface, le modifie, le change. Certains qui proposent, c'est un mot à vendre, alors on peut vendre ou acheter un mot, mais ils sont peu fréquentés, parce que moi j'ai laissé des traces il y a un an, on les voit encore très bien, donc ça veut dire qu'il n'y a pas plus d'une centaine de personnes qui ont laissé quelque chose, ce qui est quand même très peu, hein, pour des interactions minimales.
Mais là-dessus, c'est très compliqué quand on fait des créations poétiques. Moi, je travaille avec un collègue de Saint-Paul, et on a d'abord on a une idée, alors on essaye de développer l'idée, et c'est sûr, on va arriver à des résultats qui parfois n'ont rien à voir avec ce qu'on avait prévu. Il y a des contraintes techniques qui sont très fortes. Alors, quand on a à faire un sonnet, par exemple, des contraintes, deux quartets, deux tercets, 14 vers, etc. Soit on obéit aux contraintes, soit on n'en a plus de sonnet. Alors, en ce qui concerne la création numérique, on aura des résultats à la fin, et on a un dialogue assez complexe avec les contraintes techniques.
Mais après, moi, je n'ai pas du tout abordé les questions les plus obscures, comme les fanfictions. Parce que si on cherche des endroits où les gens écrivent à plusieurs, du narratif avec du texte et de l'image, on va voir les fanfictions. Et on voit, des centaines de milliers d'internautes qui écrivent ensemble la suite des aventures ou qui intègrent des variations dans tel ou tel film culte. Et donc là, moi, je me heurte à plusieurs soucis. D'abord, ça me paraît hors champ dans la mesure où les œuvres de référence ne sont pas des œuvres littéraires. Ça sera plus facilement un film ou un jeu vidéo. Ensuite, je connais mal cet univers-là. Et ensuite, on est face à une œuvre écrite par des centaines de milliers de personnes. Donc là, c'est vrai qu'on
est...
C'est
intéressant.
Voilà. Donc, oui, mais c'est toujours pareil, quoi. C'est à la fois constituer un corpus et dire avec quels critères on délimite ce corpus. Donc, il me semble qu'on est loin d'avoir fini d'explorer toutes les possibilités d'interaction, de choses. Et c'est vrai que là, on voit plus facilement des œuvres à contrat, des œuvres générées par ordinateur, parce qu'elles sont plus courtes, elles sont plus visibles, elles sont plus littéraires, et il me semble qu'il y a encore des tas d'autres choses qui s'écrivent dont on a à peine commencé à parler.
Alors, pour revenir à la question, enfin, j'ai beaucoup de questions à poser, évidemment, t'imagines. Mais la question du positionnement et de la légitimation de cette littérature que tu appelles électronique, que tu as abordée, mais sans y répondre vraiment, parce que évidemment ça pose un problème, hein, c'est que la littérature dite traditionnelle, elle s'est structurée autour du livre, et donc elle ne peut pas incorporer la littérature numérique, de même qu'elle a eu tant de mal à reconnaître la poésie visuelle, la poésie sonore. Donc ça, c'est d'un côté, effectivement, il y a une séparation entre la littérature traditionnelle imprimée et littérature numérique. Et d'un autre côté, il y a une sollicitation très forte des arts électroniques, de la création numérique au sens large, hein, qui disent aux auteurs, mais finalement ce que vous faites, c'est un petit peu comme nous, hein, venez, hein, venez exposer vos travaux avec les nôtres. Et donc du coup, ça pose un problème de positionnement, de construction du champ très grand pour ces auteurs-là. Est-ce qu'ils font encore ou non de la littérature? Comment quelles seraient les instances de légitimation?
Mais je crois que la question, elle est intéressante, parce qu'elle permet de se rendre compte qu'en fait, tout d'un coup, en littérature, par exemple avec le surréalisme, arrivent des choses qui n'étaient pas avant dans les livres, par exemple des photos. Ou par exemple des coupures de journaux ou des prospectus. Et donc on se rend compte que la question de qu'est-ce qui a le droit d'être littéraire, en fait, elle n'a jamais été très simple. Avant le 18e siècle, c'est compliqué aussi, c'est pas forcément ce qu'on imagine. Et la question se pose de la même manière pour les arts numériques. Donc j'étais à un festival du court-métrage à Angers, il y a Alain Bergala à qui on demande qu'est-ce que le cinéma, il dit moi les supports ça m'est égal. Ce qui compte c'est l'esprit du cinéma. Bon, et ensuite, on voyait des courts-métrages réalisés par des jeunes gens avec de la vidéo, avec du cinéma, avec de l'animation, avec des formats, des techniques très diverses. Et la question, c'était la même, quoi. Est-ce qu'on a un éclatement vers de l'art vidéo, de l'animation, ou est-ce qu'on dit encore que c'est du cinéma?
Et d'ailleurs, dans les galeries, j'ai vu récemment à New York une galerie qui exposait une vidéo, c'était une caméra, comme ça, c'est un écran plat au mur, qui ne contrôle pas à la réception pour les prix des tableaux. Ça, il y avait édition 1 sur 5 sur le mur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 1 sur 5? Alors, il y a un écran, il peut faire X DVD.
Alors, j'oublie le nom de la cinéaste qui était là, pourtant fort connue, qui expliquait qu'on ne pouvait absolument pas être financé. Elle n'obtenait pas de financement pour des films, que donc la solution c'était d'éditer une vidéo en 5 exemplaires et de la vendre dans une galerie. Et que ça marchait bien. Donc en réalité, du point de vue du créateur, il n'y a pas de vrai questionnement esthétique sur le support, est-ce que je suis en vidéo, est-ce que je suis en cinéma. C'est juste une question de, à un moment donné, arriver à se rémunérer de son activité créatrice. Donc après, c'est délicat, quoi, d'avoir une réponse ferme sur ces questions. En même temps, je pense que la question du champ, elle est fondamentale.
On la pose, nous.
Henri Béat voulait intervenir, puis
Oui, j'ai vu qu'il y avait la main du diable qui écrivait. Moi, j'avais à poser la question du diable. Sur le titre donné de l'intervention, de la communication, mais vraiment, c'est à la fois, je ne nie pas les problèmes techniques, les différentes catégories, tout ça, c'est un travail qu'il faut faire. Mais moi, en tant que littéraire, comme Claude Bourquet disait, je suis 17e-iste pur, moi je dirais, je suis littéraire pur. Je voudrais savoir comment fonctionne cette littérature d'avant-garde, en quoi elle se différencie de la littérature d'arrière-garde, etc. Qu'on parle de la littérature animée, je dirais, et la technique venant au bon moment. Encore une fois, il ne s'agit pas de nier les problèmes techniques, mais en quoi s'agit-il d'une littérature d'avant-garde? Est-ce qu'elle est d'avant-garde parce qu'elle est sur un support magnétique ou un support numérique? Moi, j'en suis pas convaincu, et j'aimerais ça. très sincèrement. Bon, j'ai été séduit par le côté esthétique du livre des morts, enfin des choses comme ça, bien sûr. Alors, il y a là quelque chose de nouveau, on va dire,
oui,
c'est l'interdisciplinarité. Attends, c'est un autre plan. Hein. Mais bon, mais moi, en tant que lecteur de littérature moderne, mais est-ce que je trouve des choses en quoi ça change, quoi? C'est ça qui m'intéresse.
Alors en fait, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a formulé une communication en disant, bon, est-ce que la littérature d'avant-garde au sens technique, c'est pas avant tout la littérature d'arrière-garde au sens cliché? C'est vrai que parfois, c'est ce qu'on voit aussi, une culture du cliché, parce que c'est plus facile de pas s'inquiéter trop de la narration si on doit déjà réfléchir à l'hypertexte, par exemple. Ouais. Ça, c'est une question. Et ensuite, il me semble que le pari, c'est est-ce que justement on porte un peu on porte à incandescence quelque chose de nouveau.
Je pensais, quand vous avez fait votre exposé, Patrick voit très bien de quoi je parle, j'ai dirigé un mémoire de maîtrise au temps du Minitel sur le roman par Minitel. Réalité,
c'est pas le mien.
C'était pas lui, c'est son copain. Mais le problème qui était posé, à la limite, on se fichait pas mal du Minitel, ou plus exactement, on a envisagé des aspects techniques que parce qu'ils étaient invalidants. C'est-à-dire qu'ils ne donnaient pas une bonne qualité du roman, de la successivité, enfin des choses comme ça. Mais le problème était de savoir est-ce qu'un roman par Minitel est plus ou moins ce qu'on fait par ailleurs.
Au Minitel, on a eu deux nouveautés. On a eu le dialogue écrit, qui existait pour les faire des conversations de Beethoven.
Ça a fait des romans en continu.
Et deuxièmement, certaines formes de romans interactifs, comme Jus d'orange, qui s'appelle le Jus d'orange. C'est un modèle, déjà. Ça, c'était nouveau. Le reste, non.
Disons, moi je répondrai en un mot, j'ai décidé de faire cette thèse par à-coup, mais notamment une fois, je suis tombée sur une écriture de page que je n'ai jamais retrouvée, comme dans l'histoire de Nerval, d'un texte magnifique, très, très ambitieux sur le plan de la fiction, écrit sur une page vraiment très agréable à regarder, donc le texte était vraiment vif, et pour zapper les descriptions des personnages, on pouvait en fait demander une précision sur un personnage, on avait une fiche. Et en fait, on était dans le plaisir quoi, de la fiction qui va vite.
Et à ce moment-là, elle s'est réveillée.
Constance, vous avez une question.
Bien joué. Il y a des trucs qui marquent comme ça.
Ouais, je n'avais retrouvé cette page.
Oui, à propos du genre, est-ce qu'on a bien un livre en devant les yeux, en fait, c'est ça. Je crois que c'est la première question qui frappe les lecteurs. Y compris les institutions, puisque quand Zéro Heure avait demandé une subvention pour la publication d'apparitions inquiétantes à partir du site Anacolute, la maison d'édition n'a reçu une subvention que du CNC, c'est-à-dire le Centre National du Cinéma.
Mais moi je crois fermement que non, on n'a pas un livre.
Enfin, j'en sais rien et à la limite.
Non, ça me paraît très clair. Et justement, c'est très intéressant de comparer. Ça paraît très intéressant de comparer la version web à l'apparition inquiétante et l'édition papier. L'édition papier, elle paraît terne, puis en même temps elle est rassurante quand on se dit tiens, je vais pouvoir l'emporter dans mon lit. Ah, c'est si pour que ça finalement. Enfin, quand on est sur le web, on est sur le web, c'est ouvert, ça peut bouger, d'abord on ne comprend pas comment ça marche. Ça n'a rien à voir avec un livre fermé, clos, qu'on va pouvoir laisser. On est sûr que le lendemain, avec un peu de chance, on retrouve la bonne page. Enfin, il me semble qu'on rentrait sur le web, c'est rentrer sur le flux, même si c'est pas toujours très travaillé par l'auteur, et qu'on n'est plus dans le livre, on n'est plus dans la fermeture du livre. Quand on lit, même s'il y a des références vers d'autres livres, on doit toujours se lever pour aller chercher l'autre livre. On l'a pas là au cœur même de sa page. Moi, je crois qu'il y a vraiment une différence. Mais qui ne paraît pas... ça me paraît plus un bonheur qu'un défaut. Hein.
Oui, Françoise.
Oui, moi je pense quand même pour qu'on puisse parler d'une, enfin pas littérature, mais création d'avant-garde,
Mm-hmm. Il faut que le changement de support induise des nouveaux types d'écriture et de lecture. Parce que si c'est pour lire simplement sur un support plus agréable, qui pourrait être plus ferme sur papier, malgré tout, je pense que toutes les possibilités médiologiques ne sont pas exploitées.
Oui, moi, mais par... avant-garde. Enfin, par... j'avais pris par... je sais pas si on n'est pas enregistré, là.
Si. Mais on peut censurer certains passages.
On censurera. Enfin,
c'est cher.
Un jour, pour faire très rapidement le tour de la question, je m'étais penchée sur l'écriture interactive et d'avant-garde du motif de point de croix. Donc le point de croix, la broderie, trouve avec les logiciels d'Internet une évolution de ses formes. En effet, on quitte l'univers des formes traditionnelles pour aller vers des motifs courants, puisqu'on peut, par des logiciels appropriés, transformer n'importe quel dessin, image en un motif au point de croix. Donc les motifs au point de croix ne sont plus aussi délicieusement surannés qu'avant. Et le fait qu'il y ait des créations collectives et des, je crois qu'on appelle des crucives couseuses qui puissent s'échanger entre elles. Des
crucives brodeuses.
Voilà, des crucives brodeuses, merci. Amène effectivement une évolution, si on veut dire, du contenu. Bon, maintenant, si on regarde par exemple les rapports publiés par les administrations, nous on est en retard, c'est-à-dire qu'on fait des rapports qui font 300 pages format Word, mais il faut aller voir au Canada, les rapports des administrations sont des pages web, ce n'est plus du texte en ligne. Enfin, pardon, ce n'est plus du Word de 300 pages en ligne, c'est une autre manière de présenter l'information. Donc après, il y a des changements sociétaux derrière qui concernent le fait que l'information est réellement plus accessible ou non. Si elle fait 300 pages, elle n'est pas plus accessible. Si elle fait une arborescence de pages, peut-être l'est-elle plus vraiment, un peu plus.
Jean-Claude ?
J'ai juste une petite chose, une idée qui me vient, parce que ça fait la dixième fois que la bibliothèque, c'est le rapport au temps qui est changé. Ah. C'est-à-dire que François Bon fait un blog sur un an, jour pour jour. Moi, j'ai fait plusieurs ateliers d'écriture il y a 4-5 ans, à un rythme régulier, c'est par quinzaine, par mail. Alors, je pense que Serge nous le dira, mais les ateliers d'écriture se font sûrement par Skype et on peut poser soi-même. Même pas encore.
Non, je dis, j'en parle pas ça demain, c'est pas la clé.
On est en route, c'est par exemple. C'est ce que fait Pierre
Mouvement. Valérie Noté, tu connais son site ?
Non.
Bon, là, il y a un désintéressement dans de nombreux participants à son atelier d'écriture en ligne et elle doit être à la 200e proposition d'écriture. Et bien, il y a un rythme régulier d'écriture et de lecture. Et ça fait les bonheurs des municipalités qui veulent organiser des nuits de l'écriture avec un thème. Et ça c'est l'outil électronique qui a introduit le facteur temps. Et je suis d'accord que ce n'est pas pour autant littéraire et encore moins une avant-garde. D'ailleurs, les avant-gardes d'aujourd'hui, je voudrais savoir ce que c'est. Ah, mais ça.
Ça, c'est une des questions aussi qui est abordée. Et effectivement, là, on peut rejoindre ce que disait Henri Béard. Ça n'est pas parce que le support est d'avant-garde ou qu'il est... qui ressortit aux nouvelles technologies que c'est de l'avant-garde en soi. Il me semble, moi, que dans l'histoire de l'Internet, on a raté une étape. Je dis ça par comparaison avec l'histoire de l'imprimerie. Dans l'histoire de l'imprimerie, le premier imprimé, c'est un manuscrit amélioré. C'est-à-dire que pour un lecteur de l'époque, on prenait la Bible de Gutenberg et on avait l'impression d'avoir... Alors, quelqu'un a rappelé qu'on lui avait reproché de ne pas être enluminé. Gutenberg a fait enluminer un certain nombre de ses premières impressions. Hein, et c'est quelque chose qui a été... Mais un utilisateur des premiers imprimés se disait simplement qu'il avait un beau manuscrit, un manuscrit avec un lettrage beaucoup plus régulier que d'habitude entre les mains, et surtout qu'il lui avait coûté moins cher. Ce qui fait que immédiatement, les utilisateurs de l'époque ont eu un meilleur produit que ce qu'ils avaient précédemment. Pour ce qui est de la lecture des œuvres littéraires, l'Internet n'est pas encore aujourd'hui un meilleur produit pour lire les œuvres qu'on avait l'habitude de lire jusqu'à maintenant. Et c'est cette étape qu'à mon avis on a raté avec cette technologie. C'est ce qui était proposé avec l'e-book en réalité. C'est-à-dire d'avoir... Parce que si aujourd'hui on proposait au lecteur un dispositif de lecture qui ait les mêmes avantages que le livre papier, mais qui ait des avantages supplémentaires, c'est-à-dire l'hypertextualité, la capacité de stockage, donc en gros une tablette pas chère, solide, avec, enfin, qu'on n'ait pas besoin de brancher parce qu'il y aurait une, je sais pas quoi, des pastilles solaires ou je ne sais trop quoi, et qu'il y aurait un affichage très lisse. Disons que si on avait inventé le papier électronique tout de suite, je pense qu'à ce moment-là,
la naissance d'une littérature pour le support serait toute naturelle. C'est-à-dire qu'on aurait pris l'habitude de lire les textes habituels sur ce support-là, et que petit à petit, des créateurs auraient ce qui s'est passé pour l'imprimerie. C'est-à-dire que petit à petit, les réformateurs, par exemple, se sont emparés parce qu'ils se sont aperçus que ça permettait de diffuser davantage, de standardiser, d'avoir une meilleure lecture, une lecture plus facile, etc. Donc, un certain nombre d'humanistes se sont installés dans les ateliers d'imprimeurs et ont composé presque en direct leurs œuvres. Et je crois que pour l'Internet, enfin, ce qui est gênant vis-à-vis de ce que tu étudies, c'est-à-dire l'émergence d'une nouvelle littérature, c'est qu'on ne lit pas encore de manière courante l'ancienne littérature sur ce support, et que du coup, le support paraît un peu extraordinaire encore.
C'est pour ça que j'ai insisté sur les deux outils facilitateurs que sont le weblog et le wiki, ce sont des choses très proches du point de vue informatique, je crois. Oui. Mais en fait, il me semble qu'on est en train d'arriver à ça, c'est-à-dire des pages sur lesquelles on va. Et ce qui change radicalement pour il me semble, alors c'est pas ce qu'on voit avec la poésie animée, mais il me semble que ce qui change, c'est le rapport à l'écriture pendant qu'on lit. Parce que pour l'instant, on a l'habitude d'écrire dans les marges, d'écrire à côté. Et là, on va pouvoir intégrer peut-être plus facilement notre écriture à notre lecture. Il me semble que là aussi, il y a des choses qui vont se passer. Et c'est vrai que c'est difficile d'établir un corpus pour étudier ces phénomènes. C'est vraiment, par exemple, il y a un roman en wiki, il y a celui d'Antoine Moreau, c'est quand même, c'est quelqu'un déjà de très spécialisé. Enfin, j'en ai trouvé un autre qui démarrait, c'est tout. D'où l'importance d'avoir des descripteurs pour aller trouver les sites, de s'échanger aussi des signer pour voir un petit peu ce qui existe.
Oui, moi je vais bien répondre un petit peu à Henri, parce que c'est toujours la question qu'on entend à chaque fois, effectivement. D'abord, la première réaction, c'est quand on parle de littérature numérique, c'est trouver les filiations immédiatement. On dit oui, mais effectivement, s'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis ensuite, finalement, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Et d'ailleurs, ça excède la littérature numérique, c'est sur le numérique de façon générale, hein, ce débat, mais finalement, en quoi c'est nouveau? Tout est nouveau, rien n'est nouveau, sur le même débat. Alors, je penserai peut-être plus de demain, mais quand même, il me semble que, pour prendre simplement l'exemple de la génération de texte, il me semble qu'il y a quand même un changement de paradigme dans l'idéologie du texte littéraire, hein, avec un texte qui n'a plus forcément de lieu. La version du texte qui est émise par ordinateur n'est jamais la première, et ne sera la dernière que pour un lecteur en particulier. Hein, ça, c'est quand même. Enfin, il me semble que par rapport à la conception de la textualité qu'on avait avant, il y a quand même quelque chose qui change. De penser que ce texte-là, il n'y a que moi qui vais le lire, que même l'auteur ne l'a pas lu. Bon, je prends juste l'exemple de la génération de texte, hein, mais évidemment, il y a d'autres. Et l'autre remarque, à propos de. Donc, effectivement, le fait de dire je suis un littéraire pur, moi je ne suis pas littéraire pur, mais je suis littéraire pur, donc mettons la technique de côté, et au niveau presque donc de la valeur littéraire, finalement, qu'est-ce que ça change, et même où est la valeur littéraire. Moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est, puisqu'on travaille sur quelque chose qui est de l'extrême contemporain, c'est la question de la valeur, mais c'est vrai que je ne suis pas littérature. Hein. La question de la valeur des productions, mettons-la de côté, parce qu'on n'a pas assez de recul. En revanche, on a un objet qui est en train d'exister, hein, qui se construit. Il y a beaucoup de productions, notamment énormément de productions. Hein. Dans le domaine narratif, poétique, il y a beaucoup de productions, en ligne ou hors ligne. Donc il faut bien analyser ce qui est en train de se passer. Et en revanche, il y a une capacité d'interrogation de ces œuvres vis-à-vis alors, du récit, vis-à-vis du support, du rapport au support, du rapport du récit au support, vis-à-vis de la littérature elle-même. Et c'est dans cette, j'ai presque envie de dire, cette valeur d'objet heuristique, hein, qui nous fait découvrir des choses progressivement. Hein. Pour moi, elle agit un petit peu comme révélateur, cette littérature-là. Alors peut-être qu'effectivement, il y a beaucoup d'impasses, c'est sûr. Hein. Il y a beaucoup de. Bon, pour reprendre la question de la valeur, il y a évidemment des œuvres de très très faible qualité, et c'est la grande majorité. Mais la limite, peu importe. Hein. Ça nous pose des questions sur la littérature, ne serait-ce que parce que ce que tu as présenté, les œuvres qui hybrident du texte, de l'image, du son, de la vidéo. Voilà. Est-ce que ça ouvre la littérarité, par exemple? Est-ce que ça ouvre la littérarité ou pas? Ça.
Jean-Claude, question qui va intervenir.
Petite réponse. Nicole Voltz met en ligne le brouillon qui précède la version définitive d'un poème. Ponge faisait la même chose. Yvan et Daniel demain vont nous prouver que l'Internet est l'idéal pour mettre en ligne les 30 comment on appelle, prétexte.
Avant texte,
avant la version retenue par Flaubert. Et pour moi, c'est quand même visualiser du travail, et ça peut participer à une légitimité, une validation, par rapport au texte où il n'y a rien avant. Parce que je suis d'accord avec toi, il n'y a pas assez de lecteurs pour tout ce qui est mis sur le marché de la socialisation des écrits. Mais tous ceux qui font l'effort d'offrir toutes les versions successives, c'est intéressant. Sinon, je ne vois pas.
Ah, bien sûr, oui, tu as entièrement raison. Oui. Et d'ailleurs, les deux composantes, là, dans le colloque, non, petite recherche et de.
Serge, il disait, la version définitive. On n'aura jamais la version définitive. Pas toujours.
Je n'ai pas parlé de ça.
Oui, je ne sais pas si la question de la valeur peut être évacuée, parce que tout à l'heure tu le disais à propos de tes choix. On ne peut pas exclure, c'est pas une critique, hein, mais on ne peut pas exclure qu'aujourd'hui nous valorisions des choses qui ressemblent à ce que nous connaissons sur le papier et que nous dévalorisions des formes d'expression comme les fanzines, comme les jeux de rôle, comme etc., qui sont très populaires, et en particulier parmi la jeune génération. Et qui pourrait bien, parce que les mauvais genres, ça a toujours été les genres d'avenir dans le passé de la littérature. Donc on ne peut pas exclure que ces mauvais genres d'aujourd'hui soient des genres d'avenir. Peut-être pas sous leur forme actuelle, mais sous une forme évoluée, ou qu'ils se métissent avec des formes qui aujourd'hui nous paraissent un peu élitistes.
C'est vraiment mon inquiétude. C'est, oui. Parfois je me demande si je n'ai pas l'attention captée par les cabrioles esthétiques qui finalement sont très proches de ce qui s'est déjà fait.
Qui est en train de rater l'essentiel quelque part.
Avec la vidéo, et que l'essentiel est en dessous, underground, que je ne le vois pas, tellement c'est éloigné de ce que
je veux. Je ne fais pas de prospective non plus, que tu dis ce qui se passe actuellement.
Mais elle veut savoir.
Oui, mais d'accord.
Ah, mais il faut l'attraper.
Ce que tu examines est une scène importante de toute façon. De toute façon. Mais est-ce que c'est la scène d'avenir? Ça, comme dit Serge, c'est peut-être pas aux chercheurs de le dire, de toute façon. Hein. Il s'agit d'examiner ce qui se passe à un moment donné. Je pense par exemple au monde des revues symbolistes. Bon, il y a des choses qui n'ont eu aucun avenir là-dedans, ou des auteurs qui n'ont eu aucun avenir. Hein. Mais c'était un monde, et qui est encore examiné aujourd'hui en tant que tel, parce que c'est un laboratoire important. Il se passait sans doute à la même époque, dans d'autres domaines, des choses qui aujourd'hui, ou à l'époque, paraissaient un peu populaires dans le mauvais sens du terme, et qui ont eu un avenir considérable. Le roman policier, par exemple.
Je suis en train de dire le gène des images idiotes dans Rimbaud, là, ici.
Et puisque tu parles de laboratoire, je vais faire un peu de promo, puisqu'il y a un livre qui va paraître début 2006 encore, et à double titre, qui va s'appeler « Un laboratoire de littérature », donc notamment sur la littérature numérique, aux éditions du Centre Pompidou. Voilà, c'est un livre que j'ai dirigé avec un collègue de Compiègne, début 2006. Et puis, puisque tu as parlé de la revue Formule, le numéro 10 de la revue Formule, qui devait paraître d'ailleurs cette année, mais pour la raison de budget, qui paraîtra aussi en 2006, et qui m'a été également confié et consacré également à la littérature numérique. Voilà. Oui. Ça sera très intéressant. J'ai déjà tous les articles de Balpe, Clément, Enco, qui bosse. Et ça sera un numéro à ne pas manquer. Formule numéro 10.
Marco, c'est le numéro que nous, ici, les mains, ils sont d'intérêt.
Françoise,
si on peut ajouter peut-être une petite remarque à la question des avant-gardes et la question de la valeur, c'est que précisément les ruptures avant-gardistes refusent les valeurs institutionnelles. Bon, on peut prendre Jarry comme exemple, c'était un four complet, hein, il y a eu une représentation, ils ont fermé tellement c'était la pagaille et le désastre. Bon, et la postérité de Jarry, c'est beaucoup plus tard qu'il faut la chercher. Donc il y a toujours des gestes, ça nous coupe le pied dans la fourmilière, qui sont considérés comme des nullités de la part de tous les censeurs ou toutes les personnes de l'institution, qui étouffent ces tentatives, et puis c'est plus tard que de toute façon elles portent leurs fruits. Donc évidemment on est un peu mal placé pour voir ce qui actuellement est avant-gardiste, parce que c'est souvent ce qu'on a comme de guerre de valeur. Et pareil avec Dada, Bon, d'ailleurs, beaucoup d'enseignants actuels ne veulent pas enseigner Dada parce que Dada, c'est rien, oui, c'est des pitreries, etc.
Mais il me semble aussi que, par exemple, au début, je pensais pouvoir étudier de manière complexe aussi.
Si on peut parler les uns après les autres.
Tous en même temps, c'est bien.
Isabelle.
Non, au début, je pensais qu'on pouvait, par une espèce de gigantesque opération de l'esprit, analyser les mutations de la littérature en comparant ce qui se passait dans l'imprimé et ce qui se passait sur Internet. Donc j'ai vu que ça allait être un peu compliqué, tout scanner, tout comprendre. Mais par exemple, il y a des écritures très contemporaines du corps qui sont assez étonnantes, qui n'apparaissent pas du tout dans la littérature imprimée traditionnelle, qui sont sur Internet. Alors certes, il y a vraiment des choses qui sont... d'une indigence rare, d'une provocation exceptionnelle, mais il y a aussi de réelles écritures, par exemple du corps, du déplacement dans la ville, des tas de choses qui se passent et qui me paraissent des courants, mais moi je suis encore un peu au début, enfin encore un peu en difficulté pour mettre un nom sur ces thématiques-là, mais qu'on voit émerger sur l'internet et qui sont hors propos dans la littérature imprimée, de la même manière qu'il y a un certain humour très caractéristique du web qu'on peut aussi voir comme une caractéristique.
Oui, il y a Ockmar qui a demandé la parole, je te la donne après. Je voyais Henri Dolinet également.
C'est bien fait, c'est bien
fait. Alors, c'est l'odeur de café. Bon,
j'ai juste demandé à Isabelle si, plutôt que de parler de littérature d'avant-garde, simplement, on ne peut pas parler de littérature expérimentale.
Alors c'est gênant pour moi, ça évoque des expériences Zola, le terme expérimental. Mais en tous les cas, je pense imprudent de maintenir le terme d'avant-garde.
Qui est très connoté.
Voilà, donc il est descendu de mon titre de thèse.
Oui. D'accord.
Ah, c'est imprudent.
Parce que sur cette question de valeur, il y a aussi une autre hypothèse qu'on peut faire, parce qu'on est vraiment à un moment de rupture, y compris des paradigmes. C'est que le phénomène analysé par Bourdieu dans la règle de l'art, c'est-à-dire une école démarre, elle est une avant-garde, elle est décriée, et puis peu à peu son œuvre prend de la valeur alors que la valeur de l'école précédente en perd progressivement, et puis comme ça, ainsi de suite, chaque avant-garde vieillissant étant remplacée par une nouvelle avant-garde et ainsi de suite, hein, c'est ce qu'on appelle ce mouvement des avant-gardes. Est-ce que l'Internet ne va pas modifier ce schéma dans la mesure où il s'appuie sur un circuit économique différent? Puisque quand on parle de valeur, y compris littéraire, on ne peut pas faire abstraction de la valeur économique. Il y a un ancien système dans lequel la valeur, ce qui fait la valeur, c'est la rareté. Hein, donc du moment qu'on a une avant-garde et qu'on produit quelques œuvres en tout petit comité, c'est rare, donc c'est cher et ça fait. Mais dans le cadre de l'Internet, les économistes parlent d'économie de club. Hein. C'est-à-dire que plus on est nombreux à adopter une technologie et plus ça prend de la valeur. C'est-à-dire que ça inverse les schémas habituels. Donc, est-ce que ça ne va pas inverser aussi nos schémas de valeur?
C'est vraiment très intéressant, mais tu le soulèves. Il me semble que c'est ce qui se passe avec les weblogs en ce qui concerne l'économie de club.
L'effet de club, voilà.
Voilà, l'effet de club. Mais il me semble aussi que, on en parlait, quand on analyse la manière dont les gens s'approprient les nouvelles technologies, en fait, on distingue très rapidement soit des jeunes quoi, qui ont une facilité toute simple, quoi, à proximité avec les pairs, quoi, de rencontrer une nouvelle technologie, soit ce sont des gens qui ont une expertise dans le domaine. Et ça aussi, il me semble que sur ce qui se passe en littérature, sur Internet, les gens qui taisent des créations, il y a des gens qui ont 18, 20 ans, 22 ans, mais il y a aussi des gens qui ont 50, 60, 70 ans. Et il me semble que là, le schéma de Bourdieu ne peut pas tellement rendre compte des parcours. Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Patrick Pognon, que je ne vais pas citer. Patrick Pognon, il a la bonté de laisser sur son site une page de 96. C'est vraiment la bohème, quoi. Personne ne l'aime, il écrit des textes tout seul, personne ne veut l'éditer. La page est très laide, c'est horrible. Je l'ai contacté parce qu'il était sur les mêmes sujets. Il m'a dit non, pas de problème, on peut être à plusieurs, on fait une thèse là-dessus. Patrick Pognon, en vrai, il est professeur, enfin, il est maître de conf à Paris 5. Alors, donc c'est un choix comme on les aime, quoi, parti vraiment
c'est la
bohème
hein.
Jusqu'à la voilà, mais,
et à travers une appropriation des NTIC qui fait que dans l'institution, il parvient à quelque chose. Mais je ne sais pas si c'est représentatif, en fait, des trajets d'avant-garde dans l'Internet.
Il y a des lieux, c'est quand même l'avant-moderne parisien, des choses comme ça. Des choses intéressantes. Les squats, c'est dans les squats souvent qu'il y a les choses les plus intéressantes actuellement, en matière de création. Poétique d'ailleurs.
Et ce qui est très curieux aussi, c'est la question des institutions. C'est-à-dire, beaucoup de choses se passent autour des espaces culturels multimédia, qui sont des institutions, qui. Enfin, je ne sais pas. Non. Et ben voilà. Bon, peut-être qu'on peut passer à la prochaine.
Ce qu'il avait. Mais on peut aussi s'en tenir là et reporter à plus tard ou à des plus petits comités ou à d'autres lieux la suite de la discussion.
J'aurais voulu faire une remarque à propos de deux choses. On a tendance à mélanger les procédés de fabrication d'œuvres littéraires qui sont des œuvres classiques mais qui font appel aux nouvelles technologies. Lorsque le poème de Balte fait des poèmes, c'est des poèmes que Balte aurait pu écrire. Nous sommes effectivement dans les technologies tout à fait classiques, traditionnelles. Balte est des poètes, on reconnaît sa poésie. Et ça, c'est différentes d'œuvres qui mettent en œuvre d'autres objets, qui sont animés, qui sont autres, qui effectivement sont d'œuvres nature, complètement différentes. Et là, il y a deux choses qui viennent. C'était des sous-titres.